cet après-midi et demain une formule un tout petit peu différente des formules que vous avez pu connaître les années antérieures. On appelait ça les mots de la dramaturgie, M-O-T-S. Mais si vous avez mauvais esprit, vous êtes déjà œuvré. On s'est dit que de temps en temps, peut-être, ce serait intéressant de revenir sur certains appuis dits théoriques, mais en même temps, c'est des mots extrêmement simples qu'on n'en passe tout le temps dans le travail théâtral. L'action est un mot fondamental dont l'intérêt n'a pas échappé à notre camarade Aristote. Donc la proposition, le cadre est extrêmement simple. J'ai demandé aujourd'hui à Joseph Danan de lancer l'affaire sous forme d'un certain nombre de réflexions qui durent 10-15 minutes. Et ensuite, tout le monde est invité à réagir à ce que lui inspire le mot « action » aujourd'hui, en relation avec le répertoire contemporain en général, et particulièrement celui de la Mousson, par exemple. Ce n'est pas impossible qu'on se réfère du même coup à des textes qu'on a déjà entendus ou vus ici. Pour demain, j'avais laissé la chose ouverte parce que j'hésitais entre plusieurs mots. Et finalement, même si ça frôle la dramaturgie, on va quand même, ça semble essentiel ici, à la Mecque, de travailler sur le mot traduction. Donc ce sera le mot traduction, mais du point de vue de la dramaturgie, si vous voulez, et avant, dans son rapport à l'écriture théâtrale et à la dramaturgie. Je demande à Edouard Recoing demain après-midi de lancer les choses. Et seront naturellement présents un certain nombre de traducteurs, et Eloi est de toute façon traducteur, mais tant de traducteurs et d'auteurs. Alors, Joseph Danan, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est intervenant ici dans le cadre de la Mousson qui dirige un des quatre ateliers du matin. Il est par ailleurs maître de conférence de l'Université de Paris 3, et il travaille souvent comme dramaturge, et il est auteur dramatique. Il a écrit pas mal de pièces dont la plupart ont été montées et ou publiées. Donc vous trouverez d'ailleurs, j'en profite pour la coupe d'humidité, un certain nombre de ces pièces à la librairie, dont Michel vous a dit qu'il fallait absolument la fréquenter facilement et acheter généralement 40 exemplaires d'un coup, si j'ai bien compris. Comme quoi il pense probablement que les salaires de l'éducation nationale sont fastueux et que ce sont les enseignants qui distribuent les livres aux élèves sur leurs évoluments considérables. Ceci étant repoussé avec une clarté dont la revendication de fonctionnaire ne vous a pas échappé, j'ai laissé la parole à Joseph. Et donc je crois que c'est plus que l'an dernier encore, enfin, je l'espère, une conversation, c'est-à-dire tout le monde est vraiment tranquillement tout à l'heure invité à intervenir en fonction des choses qu'il peut occuper très très tranquillement. Oui, on a enlevé la table qui me semblait un peu stalinienne à la longue et il a fallu des années avant que je m'en aperçoive. Mais bon, il y a des esprits plus ou moins rapides. Et là, vous avez Joseph presque de plein pied. L'année prochaine, on va mettre une fosse pour enterrer définitivement la dramaturgie. À toi, Joseph.
Bon, ben voilà, donc c'est tout le monde qu'on connaissait, comme j'en viens, et c'est vrai que c'est très différent de faire une conférence ou de faire ce que je vais faire à l'instant, qui est de présenter très brièvement une notion aussi complexe que celle d'action. Ce que j'essaie de faire en ce temps très, très bref, c'est de définir les contours d'une problématique à ma manière, c'est-à-dire que la notion est tellement complexe qu'on peut vraiment, je pense, l'aborder de manière extrêmement différente. Donc c'est une proposition que je vous fais, dans laquelle vous êtes invité ensuite à vous inscrire sous forme de questions, de remarques, quitte évidemment à déplacer complètement la problématique que je propose. Je voudrais juste, là, dans ce bref temps, essayer de dire pourquoi cette notion me paraît importante aujourd'hui, peut-être même névralgique. D'une certaine manière, elle l'est depuis toujours, puisque l'action, le drama, en grec, c'est ce qui fonde l'action dramatique. Donc depuis Aristote, l'action est au cœur de la question du drame, je dirais donc au cœur de la question du théâtre, puisque pendant très longtemps, le drame et le théâtre étaient superposables. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui est une des raisons pour lesquelles cette notion est si complexe. Elle s'est complexifiée, je veux dire, encore aujourd'hui. Quand on parle de l'action dans la forme dramatique, donc dans le drame au sens large, hein, je ne parle pas évidemment, enfin, je le dis quand même parce que ce qui parfois est évident quand on travaille à longueur de temps sur les questions dramatiques théâtrales, n'est pas forcément pour tout le monde. Le mot drame ici ne renvoie pas à un genre au sens restreint, aux côtés de comédie ou de tragédie, mais à la forme dramatique dans son ensemble. C'est-à-dire pratiquement toutes les pièces de théâtre, depuis l'Antiquité grecque jusqu'à une bonne partie du XXe siècle. Et peut-être même, d'une certaine manière, le théâtre épique brechtien, qui voulait être une alternative à la forme dramatique, peut-être même le théâtre épique brechtien appartient-il encore à la forme dramatique. En fait, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que Brecht, contrairement à ce que lui souhaitait, voulait, finalement, dans ses pièces, écrit encore des drames, même si ces drames sont travaillés de l'intérieur par l'épique. Ça, nous y reviendrons si vous le souhaitez. Donc, dans ce qu'on entend en général par pièce de théâtre, quelle est cette action qui est au cœur du drame et qui le fonde? Alors, je pense que pour avancer, il faut peut-être commencer par définir un modèle canonique de l'action que j'appellerai la grande action, c'est-à-dire, pour emprunter une formule à Michel Quenavert, l'action d'ensemble d'une pièce. C'est-à-dire une action qu'on peut saisir sur la totalité d'une pièce de théâtre donnée, qui couvre du début à la fin de la pièce, qui va, dans les œuvres les plus classiques, d'une exposition à un mouvement, en passant par des péripéties, par un nœud, vous voyez. Bon. Même si, dans les œuvres contemporaines, on ne peut plus guère parler d'exposition, de dénouement, même si ces notions-là, dans beaucoup d'œuvres, enfin pas dans toutes, mais dans une grande partie des œuvres contemporaines, ces notions-là ont tendance à se dissoudre, voire à disparaître, il n'en reste pas moins que dans énormément d'œuvres, on peut encore poser la question de l'action d'ensemble, c'est-à-dire celle qu'on peut appréhender sur la totalité de la pièce. Pour prendre comme point de repère, comme ça, pour parler contemporain, mais pour prendre comme point de repère une tragédie classique connue de tous, dans les lettres de Sophocle, Électre attend la venue d'Oreste qui doit la venger. Oreste arrive, met en place un plan et se vante. Voilà, c'est une action d'ensemble qui couvre l'ensemble de la pièce. Alors, il est évident que dans le théâtre contemporain, il est devenu extrêmement rare de voir quelque chose d'aussi structuré et d'aussi cernable, central, centré. Justement, je vous faisais référence à Michel Quenavert, qui, outre le dramatique que vous connaissez, a mis au point une méthode d'analyse des de théâtre qui est tout à fait passionnante et des concepts tout à fait utile pour aborder le drame. Michel Quenavert dirait que dans des œuvres d'inspiration classique au sens très large, l'action d'ensemble est unitaire et centrée. Bon. Alors, pour faire un très grand saut dans le temps, ce qui se passe à la fin du XIXe siècle, dans une espèce de grand bouleversement des formes, et notamment de la forme dramatique, concerne encore aujourd'hui, je crois qu'on est encore plus d'un siècle plus tard dans les ondes successives de choc de cette crise du drame qui s'ouvre à la fin du 19e. Donc, à la fin du 19e, il y a quelque chose qu'on désigne aujourd'hui, hein, dans la théorie moderne, comme crise du drame, qu'est-ce qui se passe, pour dire encore très brièvement, sur le plan de l'action. L'action se ralentit, chez Tchekhov par exemple, dans un pièce d'Ibsen. On n'est plus dans une espèce de tension permanente, d'avancée permanente. La tension connaît des moments de relâchement, on a l'impression que par instant il ne se passe plus rien, plus grand chose. Alors là, vous voyez, ce qui s'ouvre là, fin 19e, chez les auteurs comme Tchekhov ou Ibsen, il est évident qu'on en a encore des effets aujourd'hui dans bon nombre d'œuvres contemporaines. Chez d'autres auteurs, comme Tchekhov par exemple, je dirais que, outre ce ralentissement qui est sensible, l'action a tendance à se décentrer. On a beaucoup de mal, dans bon nombre de pièces de Tchekhov, à parler d'une action unitaire, centrée, pour l'ensemble de la pièce. Meyerhold, très tôt, avait repéré ça en disant que chez Tchekhov, il n'y a pas de centre, il n'y a plus de centre. Et on aura, à la place de l'action d'ensemble unitaire et centrée, des actions. Plusieurs actions qui se recoupent, qui ont des liens entre elles, plus ou moins lâches, plus ou moins tendues. Bon, je ne veux pas développer ici ce qui accompagne cette atteinte à l'action classique, c'est-à-dire celle de la tragédie antique ou classique française, mais ce qui accompagne, par exemple, c'est la disparition progressive et à peu près totale déjà chez Tchekhov, d'une notion de celle d'intrigue. Pratiquement, on ne peut plus dire parler d'intrigue, et ça, aujourd'hui, dans le thème contemporain, il me semble que quand on parle d'intrigue, dans 95% des cas, c'est à tort. On ne peut plus parler d'intrigue au sens de quelque chose qui se... une implication, quelque chose qui se noue et qui se dénoue. Autre exemple, fin 19e, avant d'en venir au contemporain, comment dit, mais là encore, ce sont des formes qui sont inaugurées fin 19e et qui ont plus que des échos aujourd'hui, une descendance extrêmement importante. Maeterlinck ose le concept de théâtre statique, ce qui est une espèce de par rapport au drame et par rapport au mouvement du drame et par rapport à l'action, une espèce de contradiction portée vraiment au cœur du théâtre. Ça culmine dans plusieurs pièces des débuts de Maeterlinck, des œuvres plus importantes de Maeterlinck. Ça culmine avec une pièce comme Les Aveugles, vous avez 12 aveugles perdus dans le noir en pleine forêt, qui ne voient plus rien et qui attendent quelque chose qui n'arrivera jamais. Vraiment, là, dans une espèce de degré zéro de l'action par rapport auquel bien des œuvres contemporaines dans lesquelles on dit qu'il ne se passe rien sont extrêmement animées. Bon. Alors, justement, si on aborde le contemporain, est-ce qu'il résulte de tout ça que le dramatique soit bel et bien mort? On aurait pu le penser, et la crise dont je vous parle, qui s'est ouverte en 19e, ne laissait présager rien de bon de toute l'évolution du drame. Si bien que je parle, quand il y a maintenant 20 et quelques années, Jean-Pierre Sarrazin qui a un livre qui s'appelle L'avenir du drame, cet avenir du drame, le titre claque comme une espèce de programmation pour dire que le drame existe encore et continuera à exister. Et comme quoi, il n'était peut-être pas inutile de l'affirmer, justement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de productions théâtrales contemporaines dans lesquelles le dramatique semble plus que s'estomper. Enfin, je ne sais pas, je donnerai comme exemple la vogue que l'on a connue dans une période récente, enfin, les 70, du monologue. Alors, je ne dis pas qu'un monologue est nécessairement non dramatique. Il y a des monologues qui le sont, qui parviennent à l'être. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là que le monologue surmonte sa nature de monologue pour produire quelque chose qui a tendance à lui échapper et à s'absenter. Je ne l'ai pas dit, mais ça paraît quand même assez évident. Le drame repose sur l'altérité, sur la relation interpersonnelle, sur le conflit très souvent. Dès lors qu'il y a monologue, ces notions-là ont tendance à se dissoudre, et pour qu'un monologue soit dramatique, il y a à surmonter cette espèce de handicap initial pour aller vers des formes. Alors, il y en a des démonologues qui conservent cette dramaticité, ou qui la restaurent, ou qui la déplacent. Je pense à Credo, Ben Zuckerman, par exemple, qui est un monologue actif. Mais pour être actif, qui doit inventer à la protagoniste une figure dont on n'est pas sûr qu'elle soit absente ou présente, enfin, une espèce d'interlocuteur comme ça, peut-être imaginaire, mais en tout cas un interlocuteur quand même, qui crée de l'altérité à l'intérieur du monologue. Bon. Néanmoins, bon nombre de monologues contemporains échappent, à mon avis, à la catégorie de l'action. On en parlera, peut-être que ça la déplace ailleurs, peut-être que ça crée autre chose, mais échappe à la catégorie d'action, que ce soit en déplaçant l'action du côté du discours, du côté de l'épanchement, du lyrisme, de la poésie, voire, c'est plus rare quand même, de la réflexion philosophique, enfin, du pur déploiement d'une pensée qui ne serait pas active. Et le cas le plus fréquent, c'est quand l'action se trouve remplacée par le récit. Or, le récit, a priori, n'est pas de l'action. Le récit, ce serait le retour à la forme antérieure à l'action et au drame, puisque selon Aristote, le drame se constitue en rupture avec l'épopée, c'est-à-dire avec l'épopée au sens antique, avec le récit. Quand on retrouve aujourd'hui des récits dans le théâtre contemporain, on a l'impression d'une tentative justement pour soit, comme je disais, dépasser complètement l'action, soit l'annuler au profit d'autre chose. Le récit peut être récit d'action, mais il n'est pas action au sens où, peut-être là aussi que je précise, au sens où l'action, je suis très arrêté par l'hypothèse initiale, au sens où l'action suppose quelque chose qui se joue devant nous dans le présent de la scène, donc il n'est pas raconté mais qui est montré. Le récit étant évidemment le contraire de cela. Alors, si j'assume cet aristotélisme, c'est qu'il me paraît paradoxalement très moderne. Je veux dire par là que la modernité n'est pas forcément, mais la modernité n'est pas forcément là où on le croit, c'est-à-dire dans des formes qui tourneraient le dos à l'action, qui casseraient complètement l'action, proposerait par exemple le récit à la place. Là où quelque chose me paraît incontournable, c'est que même dans les formes théâtrales d'aujourd'hui qui ne sont pas dramatiques, pour qu'il y ait théâtre, j'avancerai cette proposition, il faut que quelque chose advienne au présent devant nous. D'une manière ou d'une autre. Quand on raconte quelque chose sur la scène, on prend le risque que ce quelque chose au présent n'ait pas lieu. Ou alors on le recrée autrement, bon, effectivement, mais ce quelque chose-là, du coup, n'appartient plus à proprement parler à l'écriture, mais va appartenir, par exemple, à l'acteur, hein, à celui qui va faire vivre quelque chose devant nous, faire vivre un récit devant nous. Il me semble que dans le théâtre d'aujourd'hui, la fascination que nous éprouvons pour une série de formes qui relèvent, je dirais, de la performance scénique vient d'une espèce de quête forcenée de ce présent scénique qui est aussi présence, justement. Je pense par exemple à la fascination que de l'intérieur du théâtre, nous éprouvons par exemple pour la danse, qui est pur déploiement dans le présent. Que nous éprouvons, je dirais même peut-être de manière encore plus emblématique, même si c'est plus marginal, pour le cirque. Avec cette part de risque qui caractérise le cirque, qui fait qu'on est non seulement dans l'action. Présente, et là je dis presque que c'est une action, c'est quelque chose qui n'appartient plus à l'écriture, on est dans quelque chose qui se déroule au présent devant nous, avec le risque que ça ne se produise pas, que ça se produise mal. Tous les jongleurs vous diront que leur préoccupation constante est que ça peut rater. Bon, évidemment, je pense, après la danse et le cirque, à l'intérêt que nous éprouvons pour la musique sur scène, la musique live, la musique jouée en direct sur la scène. On sait que le théâtre est extrêmement sensible à toutes ces formes, et que le théâtre aujourd'hui aurait tendance à rechercher, dans cette qualité de présence de l'acte scénique, faut-il l'appeler action, donc d'une certaine forme d'action scénique, quelque chose peut-être qu'il retirerait au texte et qu'il irait chercher ailleurs, du côté de l'action. Alors j'ai parlé de danse, j'ai parlé de cirque, mais tout simplement de l'action jouée, vécue par l'acteur sur scène. Et encore une fois, je crois que c'est très présent dans nos mentalités aujourd'hui, cette qualité de l'action unique, quelque chose qui ne serait pas représentation, comme l'est traditionnellement le théâtre, mais qui serait présentation. Hein, vous voyez, quelque chose qui n'aurait lieu qu'une fois. Je pense à notre intérêt pour, je parle de performance, mais je pense à notre intérêt pour ces manifestations qui n'ont lieu qu'une fois, les lectures que nous vivons ici. On sait bien que dans cet acte de la lecture qui n'a lieu qu'une fois, vraiment, enfin, répété rapidement et qui, dont on sait qu'il y a ce caractère d'unicité qui la caractérise, est quelque chose qui nous fascine et qui n'est pas de l'ordre de la représentation, mais de l'ordre de l'événement. Voilà, de l'événement scénique. Alors, la question que je me poserai pour finir avec cette petite problématique, si vous voulez, la question que je me poserai, c'est qu'en est-il, que peut-il en advenir, que peut-il en être aujourd'hui du dramatique dans ce contexte, et tout simplement de la place du texte et de l'écriture pour la scène. Si tout l'intérêt que nous accordons au théâtre se trouve être du côté du présent de l'action scénique, du mouvement scénique, de la parole proférée une fois, de la présentation d'un objet qui ne se fait qu'une seule fois devant nous, qu'en est-il du texte, hein, et qu'en est-il du drame? Je n'ai pas une réponse, peut-être que ça peut être une voie pour le débat. Je dirais simplement qu'il me semble que chez beaucoup d'auteurs, consciemment ou un peu moins consciemment, plus intuitivement, donc peu importe, hein, je veux dire, un auteur n'est pas forcément un théoricien, ou peut théoriser après coup sa pratique, je crois que là il y a vraiment toute la figure, mais il me semble qu'il peut y avoir la recherche de formes dramatiques, je continue à les appeler ainsi, dans lesquelles il y a bel et bien une action, et qui va se situer au point d'articulation entre l'action représentée ou à représenter et le travail de la scène. Si je prends, pour que ce soit plus concret et pour finir, 3-4 exemples de pièces du corpus de la mousson d'été de cette année. La pièce d'Ente Cornan, Kern, sur laquelle on a eu des débats notamment en atelier, sur ce qui serait supposé être une certaine forme de classicisme de cette pièce, enfin, une pièce classique. Elle tient néanmoins à la conception classique du drame, en ce sens où Kern met en jeu, en effet, une action. Une grande action, alors avec des détours, avec des contournements, avec des traversées de paysages, mais néanmoins en œuvre une grande action qu'on peut raconter, en clair une fable, on peut raconter la fable de la pièce comme succession des actions de la pièce, Donc, de ce point de vue-là, en effet, Kern renie pleinement, et c'est une des tendances du théâtre d'aujourd'hui, Kern renie pleinement avec une forme dramatique dont on a pu penser ces dernières années qu'elle se perdait, qu'elle s'enlisait, qu'elle s'arrêtait, qu'elle tombait en passe, qu'elle se traquait complètement. Les trois exemples que je donnais maintenant brièvement, peut-être plus brièvement parce qu'il y en a une que vous avez pu voir hier et les deux autres pas encore, donc je vais beaucoup plus elliptique que faire un effet d'annonce plutôt sur ces pièces-là, me paraissent, sans que je porte du tout, sans que je porte le moins de jugement de valeur sur ces formes les unes par rapport aux autres, mais elles me paraissent proposer un contournement justement de cette action comme action représentée, comme action, je ne vais pas employer le mot encore, mais mimétique, comme mettant en œuvre, mimésie si vous voulez, c'est-à-dire Kern, une traversée du monde supposé réel, ou l'image de ce monde réel, par un personnage qui accomplit son action. Quoi. Si je prends ma vie de chandelle de Maurice Melchior, que vous avez pu voir hier, vous avez assisté à la lecture, hier, mais une lecture spatialisée comme c'est pratiquement toujours le cas ici à la Mousson, mais, je vous ferai un autre mais, dans le cas de Marie de Chandelle, une lecture spatialisée qui est au plus près de la mise en scène rêvée par Maurice Melchior. C'est lui qui écrit que le lit occupe la grande partie de la scène, et toute l'image scénique qui est décrite finalement et qui est donnée en lecture avec un minimum de moyens est très proche de ce qu'elle serait dans la pièce réalisée. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ma vie de Chandelle? Il me semble que. Alors, il y a incontestablement de l'action. Il n'y a personne de dire qu'il ne se passe rien dans cette pièce. Il se passe constamment quelque chose. Il y a même des éléments parfaitement reconnaissables d'un trio, enfin, Marie et la femme, et puis ce personnage de Troublion aux côtés d'eux. Et pourtant, alors, je vois comme ça cette pièce, tout se passe comme si il était pratiquement pas question de raconter quelque chose qui aurait eu lieu et que la scène ferait venir au présent. Mais on dirait que dans cette pièce, tout ne se passe que dans le présent de cet espace. C'est-à-dire qu'il y a un espace-temps sans coupure temporelle et presque sans coupure spatiale, parce que les sorties de scène des personnages finissent par être de moins en moins crédibles, de plus en plus des pirouettes, que les gens sont obligés de sortir de scène pour les revenir aussitôt. Tout se passe dans cet espace-temps, c'est-à-dire que la représentation est pratiquement annulée au profit d'une pure présentation scénique, au point que, c'est pas évidemment, c'est pas du système, au point que ce personnage de Troublion dont je parle est un présentateur, justement. Non pas un représentateur comme on en voit à la télévision, ce qui est plein de théâtral, qui joue avec le public, un chauffeur de salle, comme il le dit lui-même ironiquement, un personnage qui assure en permanence le lien du spectacle dont il ne cesse de dire qu'il n'aura pas lieu, comme s'il n'y avait pas de représentation possible, justement, qui assure en permanence ce lien du spectacle avec le public, dans une pure présentation où ce qui prime, c'est le rapport acteur-spectateur et non pas la représentation avec le quatrième mur. Deuxième exemple, alors je vais plus vite parce que vous entendrez demain l'enregistrement radiophonique de la pièce de David Lescaut, l'instrument à pression, qui travaille plus encore sur une action, je dirais, à la limite, parce que se passe plein de choses dans cette pièce, et pourtant, peu d'entre elles, semblent être de l'ordre de la représentation. Je dirais même pratiquement aucune, parce qu'en fait, ce qui a pu advenir ne nous est transmis que par du récit. Alors, il y a quelques éléments dans la pièce, une pièce qui travaille par série, mais une des séries qui et de l'ordre du récit, une forme de récit au présent, d'ailleurs, je ne trouve pas. Donc, une forme de récit au présent. Et puis, il y a, alors surtout, cette étonnante métaphore de musicien de jazz qui ont l'air de jouer en direct devant nous sauf que les sons qui deviennent sont des paroles qui décrivent la enfin, on peut voir comme ça, enfin, qui semblent être des paroles qui décrivent la musique. C'est-à-dire que la pièce de David Lescaut, dans une structure vraiment très sophistiquée, là, je serais assommant d'en parler en détail parce que vous ne la connaissez pas, donc vous verrez demain, mais me paraît vraiment très proche d'un théâtre qui recherche une espèce d'analogie avec ce qui se passe dans la musique ou ce qui se passe dans la danse, par exemple. Et j'ai bien d'analogie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de que le théâtre imite la danse, comme il le fait parfois de manière un peu naïve et pas toujours réussie, bon. Mais trouve un équivalent verbal de cette performance purement dans le présent, puisque la danse ne raconte rien, ne représente rien, elle est pure présentation dans le présent de la scène. Le dernier exemple que je prendrai est, alors, je vais en avoir plus vite parce que c'est plus connu comme fonctionnement, c'est le Tigre bleu de l'Euphrate de Laurent Godet, ça va être dans les jours qui viennent, là, demain, je ne sais plus. Alors c'est plus connu dans la mesure où c'est un récit, un monologue avec un récit, mais que la marque que l'auteur imprime à ce monologue pour en faire quelque chose qui néanmoins n'est pas un pur récit, mais quelque chose qui se déroule au présent, alors c'est un peu c'est une tentative, je veux dire, qui est sur un fil, mais qui est d'inscrire ce récit à l'intérieur d'une action scénique, puisque c'est le récit fait par Alexandre le Grand Mourant. Donc c'est la mort d'Alexandre et Alexandre racontant pour ne pas mourir ou pour ne pas pour différer la mort ou pour donner un certain sens à sa mort. C'est-à-dire que le récit est inscrit à l'intérieur d'une action au présent qui lui donne un certain sens. Voilà, je n'ai finalement pas tout dit de ce que je voulais dire, mais peu importe, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je suis plutôt pour en reparler si vous voulez bien, enfin, c'était pour tracer, comme je disais, le cadre d'une problématique.
Bon, merci beaucoup, Joseph. Il était bref et précis. Est-ce que donc ça suscite réactions, des questions, des envies d'autres exemples, des exemples à donner, est-ce que ça vous parle, cette question-là, enfin, qui de notre point de vue est au centre des écritures contemporaines. C'est une vraie question, enfin, pour nous, c'est une vraie question dramaturgique, notamment dans le rapport particulier que l'action entretient évidemment avec la parole. Un petit peu de dire. C'est dur.
Oui. Est-ce que dans la crise du 19e que tu portais, est-ce qu'il n'y a pas des choses.
Tu parles un peu plus fort.
Est-ce qu'il n'y a pas de choses que. Annoncer d'avant, par exemple, ce drame immobile de Metterlinck, est-ce que dans Racine, on n'a pas déjà quelque chose qui est de l'ordre de cette parole agissante? Le fait simplement d'être dans le procès du langage est l'action même.
Bien sûr.
Et qui fait aussi que les écritures contemporaines. On en parlait un peu hier, cette position de repli qui n'était pas une défaite, se centre sur cette zone du langage, comme le lieu agissant, véritablement agissant.
Et je crois que la parole a toujours été parole-action, depuis la tragédie grecque. Je crois que c'est ce qui fonde l'action théâtrale. La différence, si je puis dire, entre Racine et Metterlinck, sur ce plan-là, c'est que chez Racine, il y a une action qui se construit avec une tension, avec une intrigue, que la parole des personnages crée ces tensions et crée ce mouvement qu'ensuite on peut rendre sur la scène de différentes manières, y compris en annulant ou en réduisant les mouvements, c'est vrai. Alors que chez Metterlinck, c'est comme s'il n'y avait plus la croyance dans cette action possible, comme si les personnages n'étaient plus capables d'agir. Et ça, c'est une chose extrêmement importante sur le plan de ce que ça dit de notre civilisation, sûrement. les personnages chez Metternich étant dans une espèce de, d'incapacité à agir, qui fait que même si leur parole agit à l'intérieur d'une action. Je prends un exemple peut-être plus clair encore que Metternich, mais c'est le cas de l'exemple de Beckett, qui est un héritier, à mon sens, direct de Metternich. Quand vous prenez un temps Godot, il ne se passe rien. Et pourtant, la parole fait que sans arrêt, il se passe quelque chose, mais ce quelque chose qui se passe ne construit rien, ne construit pas d'action. Donc il se passe quelque chose par la parole qui ne débouche sur aucune action, qui débouche sur une non-action. Alors que chez Racine, c'est quand même actif.
Chez Racine, la parole est entièrement au service de l'action d'ensemble. Enfin, c'est ce que Wiener appelle une parole instrumentale. C'est-à-dire qu'elle est là pour que l'action d'ensemble puisse se développer, même si on pourrait discuter. Elle n'est pas strictement instrumentale.
Non, elle est à la fois active et instrumentale. Les deux.
Moi, j'ai une question, j'espère qu'elle est claire. Là, si on prend la définition d'Aristote, l'imitation d'une action, est-ce que finalement le mouvement de la modernité, c'est-à-dire cette crise, ça n'est pas davantage la remise en cause de l'imitation plutôt que la remise en cause de l'action?
Je crois que ça ressortait un peu ce que je disais. Oui, non, mais c'est important. Parce qu'il y a une chose importante que je n'ai pas dite. Il y a une chose extrêmement importante que je n'ai pas dite, c'est que justement, dans l'Antiquité, il n'y a pas de distinction faite entre l'agir représenté et l'agir représentant, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction faite entre le personnage agissant et le comédien qui, sur la scène, agit pour représenter l'action. Est-ce que c'est clair, ça? Et le mot de personnage, il n'y a pas de mot de personnage. Et effectivement, cette formulation me paraît très juste, ce qui remet en question, c'est aujourd'hui, c'est ça, c'est la mimésie, c'est l'imitation. Des noms que je voulais citer dans son livre « Le théâtre est-il nécessaire » a proposé des analyses extrêmement justes et importantes de ça. Et il dit la chose suivante. Il dit « Aujourd'hui, nous allons plutôt au cinéma pour voir les actions représentées. » C'est-à-dire la mimésis, l'imitation de la réalité, c'est plutôt le cinéma qui l'apporte. Alors que nous allons au théâtre pour voir au contraire l'action de représenter. Donc nous allons au théâtre pour voir moins des personnages que des acteurs. Alors ça peut discuter, sûrement à nuancer, mais la distinction est quand même extrêmement intéressante, je trouve, et a une grande part de vérité.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle?
Oui, moi je pense que d'une certaine façon, l'intérêt. L'action s'est déplacée du plan d'énoncé au plan d'énonciation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'a localisée généralement dans l'énoncé, l'action, et que maintenant, elle se déplace du côté de l'énonciation. C'est-à-dire que c'est celui qui fait ce qu'il fait qui agit. Mais ce n'est pas ce qu'il est censé représenter qui le fait agir. Alors, à partir de là, moi, je fais quand même remonter ça, par exemple, à Brecht. Dès l'instant où il introduit une dissociation évidente entre l'acteur et le personnage, il introduit un espace qu'aujourd'hui le théâtre fait éclater complètement. Ce qui fait qu'on peut parfaitement se trouver dans des situations où non seulement l'acteur n'est plus tout à fait proche de ce qu'il raconte, ce qu'il fait sur le plateau n'est pas proche de ce que le personnage, entre guillemets, serait censé faire, mais on peut aller jusqu'à des extrêmes où, par exemple, dans un cas comme le cirque, par exemple, on peut prendre des textes et les mettre dans la bouche de quelqu'un qui fait du trampoline là-bas. Il n'y a absolument plus aucun raccord entre la trampoline et l'énoncé, mais la situation d'énonciation l'expression est théâtralisée autrement. Et donc l'écoute est théâtralisée autrement. Et c'est quelque chose finalement qui remonte quand même à un certain temps, d'une certaine façon. Quand on a commencé à mettre des textes dans des usines, si je prends Racine et que je le joue dans une ancienne usine, je déplace le contexte d'énonciation et du coup je crée un espace d'audibilité qui est autre. Alors je pense que tout le théâtre ne rentre pas là-dedans, il y a une quantité de pièces évidemment qui ne rentrent pas là-dedans, mais il y a une forme en tout cas de théâtre qui cherche sa théâtralité uniquement dans le ici et maintenant du corps. Alors est-ce que c'est dans l'espérance de la seule foi et de la non-reproductivité possiblement oui, mais pas forcément. Et on peut aussi le chercher simplement dans le plaisir de la dissociation. Et d'une certaine manière, de retrouver par là quelque chose d'épique. Enfin, d'une certaine façon, moi j'ai quand même le sentiment, je ne sais pas si je pose, mais j'ai quand même le sentiment que le théâtre n'a jamais été dramatique. Le théâtre a toujours été épique. Sauf qu'à des moments, on a dit qu'il était dramatique. Des moments très précis qui sont devenus dominants dans notre conscience, on a dit qu'il est dramatique. Mais en fait, si on regarde l'histoire du théâtre depuis les Grecs, c'est même l'épique qui domine. Et à l'intérieur de l'épique, il y a du dramatique. Et aujourd'hui, on en revient finalement, après un 19e siècle ou un post-19e siècle qui a beaucoup insisté sur le dramatique, on en revient au régime normal du théâtre, à savoir qu'on commence par le récit et dedans, on en chasse des choses qui se passeraient au présent, mais plus les choses de l'énoncé, mais les choses de l'énonciation.
Alors, sur la non-productivité ou productivité de la théâtrale, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est comme une espèce d'utopie ou d'horizon comme ça, un extrême, mais qui est, je crois, assez présent dans nos esprits globalement de spectateurs. Alors, sur la primauté de l'épique sur dramatique, c'est une question extrêmement importante. Là, j'avoue que là, on pourrait vraiment en débattre. Mais c'est vrai que, en tout cas, là, je trouve que je suis d'accord avec toi, c'est que chez le théâtre dit dramatique des Grecs est un théâtre épique. Le cœur, en effet, est un élément épique. Et que le théâtre dramatique n'a peut-être été qu'une théorie. Enfin, ça, c'est possible. Reste que ce qui est produit peut-être chez les Grecs, alors je ne sais pas, peut-être pas tant l'épique, et là je retourne à nouveau la question ou la forme, mais peut-être justement l'action de représenter ou même de présenter. C'est-à-dire ce qui est premier, c'est peut-être la structure scénique, la structure de l'action scénique, puisque le chœur était quand même un chœur qui non seulement parlait, mais chantait et dansait, évoluait sur le plateau. Et cette forme-là, qui est une forme de représentation en premier, hein, donc en scénique, qui est devenu le support des textes dramatiques. Au point d'ailleurs, je crois que c'est Florence Dupont qui dit ça, et c'est pas Florence Dupont, c'est Nicole Laureau, donc il faudra vérifier, mais c'est l'une ou l'autre, qui dit que les pièces grecques étaient pratiquement écrites pour être jouées une seule fois. Il faudrait regarder ça un peu plus près, excusez-moi, j'ai un peu à rentrer. La dernière chose que je voulais dire par rapport à l'intervention, et qui me paraît important, quand tu dis alors on prend racine dans une usine, là c'est un acte de metteur en scène. Alors ça, tu as tout à fait raison, cela dit. Hein. Et moi ce qui m'a porté, c'était de voir comment cette problématique résonne au niveau de l'écriture dramatique. Mais là où je trouve que, enfin, là où j'ai envie de prolonger ta remarque, c'est que tout ce que j'ai raconté là finalement, il faut le resituer dans un contexte plus global, qui est que depuis plus d'un siècle maintenant, nous sommes dans l'ère de la mise en scène, hein, et que c'est tout le travail des metteurs en scène, tout le travail, tous les bouleversements de l'art, de la représentation, qui ont entraîné également des bouleversements dans l'art de l'écriture dramatique. Et cette dissociation dont tu parles, en effet, tu as raison sur Brecht, mais cette dissociation dont tu parles entre l'acteur et le personnage, toutes les variantes, en fait, toutes les possibilités qu'on peut imaginer de représenter autrement que dans l'adéquation entre un acteur et un personnage, tout cela vient du développement considérable et même de l'autonomisation de l'art de mise en scène depuis 130 ans. 120, 120 ans.
Je voudrais répondre à son mari Pierre. Enfin, prolonger la discussion. Quand même, je suis pas sûr. Enfin, moi, je dirais pas que le dramatique est
négligeable enfin, par rapport à l'éthique, parce que sinon, Platon se serait jamais énervé. Contre le poète qui se met à imiter les personnes dont il parle. Alors je pense quand même que le cœur du dramatique, c'est cette espèce de dispositif, de fiction, qui fait que la personne qui est sur scène doit faire accepter qu'elle n'est pas ce qu'elle est, que la chose, etc., etc. Donc ça, c'est quand même, je crois, un pacte qui est solide et qui fonde le théâtre et qui le différencie de l'éthique, même si, alors là, je suis complètement d'accord avec vous, globalement, il y a toujours de l'éthique dans le théâtre. Sauf, effectivement, à de très rares moments. Mais peut-être la différence par rapport à ce qui se passe plus récemment, chez Brecht, à mon avis, il y a la chose qui représente et la chose représentée. Le plan de l'énonciation et le plan de l'énoncé. Simplement, elles sont dissociées. Mais elles sont toutes les deux là. Je me demande si ce qui se passe après, c'est pas justement en faire disparaître l'une. Ce serait arriver avec une espèce d'immanence comme ça de... l'action, c'est effectivement ce qui se passe. Je suis un corps qui parle sur une scène, face à vous, traversé par une parole poétique, ou par pas de parole du tout d'ailleurs, avec un corps, etc. Je me demande si c'est pas justement au moment de Brecht, on est dans une séparation, et ensuite, je crois, enfin ensuite, c'est cette modernité qu'on essaye de, enfin cette actualité qu'on essaye de capter, et donc on est maladroit, c'est pas justement faire litière de d'un des deux plans. Quoi.
Mais dans ce que tu décris, par exemple, Joseph donnait l'exemple d'Electre. Electre commence au bout de 5 lignes, je sais qu'on reste de retour, je sais tout ce qui va se passer. Je n'ai aucun comment. Je sais ce qui va se passer, et tout le reste de la pièce, moi je suis savant de tout ça, tout le reste de la pièce, c'est l'aveuglement et c'est l'ignorant de ceux qui sont sur la scène, de ceux autour du reste, que je regarde, c'est leur. C'est une action immobile d'une certaine manière, alors même que moi je sais tout. Donc je reconnais, c'est pour ça aussi d'ailleurs, par rapport à ces écritures contemporaines, cette chronologie, parfois je me sens plus contemporain que très ancien, parfois je sens le contemporain très loin de moi, c'est-à-dire, je sens parfois, je reconnais dans des formes comme celle d'Élec, par exemple, que tu citais, un creuset de la modernité, du point de vue de la conception dramatique autour de cette urne vide, autour de laquelle tout le monde, voilà, que l'histoire qui s'écrit finalement, elle s'écrit autour d'un vide, autour de l'urne présente au milieu de tous, autour de ce faux monde.
Pour aller dans ton sens, le dramaturge québécois Daniel Danis commence Cendre de Caillou en écrivant le drame a déjà eu lieu. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre est essentiellement de l'ordre du récit, même s'il y a des moments de jeu, mais il pose que la chose a été accomplie. Donc les 2h30 qui suivent, ou les 2 heures qui suivent, n'ont rien à voir à. C'est du présent, et en même temps, le drame a déjà eu lieu. Et donc en effet, ça renoue avec cette tradition-là de la fatalité qui est déjà passée. Et après ça, il s'agit de raconter et comment raconter au présent et sous quelle forme. Et je suis d'accord avec toi, on est probablement en train de renouer avec des formes peut-être plus anciennes. Probablement.
Je crois qu'il est toujours extrêmement... c'est ce qui échappe en même temps quand on essaie d'utiliser quelque chose. La grande difficulté est que cette synthétisation est en même temps forcément une simplification. Quand on parle d'histoire contemporaine qui a beaucoup des choses extrêmement différentes, je crois que là, peut-être il faut être plus nuancé et dire que dans les histoires contemporaines, certaines conservent quelque chose de ce plan-là, de l'imitation d'une réalité supposée et d'une action qui est censée avoir lieu, alors que dans d'autres cas, il faut constater un clivage entre deux types d'écritures contemporaines extrêmement différentes l'une de l'autre, les unes des autres. Le clivage, c'est que de l'autre côté, on aurait en effet des actions scéniques qui ne racontent rien d'extérieur à elles-mêmes. Ce que tu disais à l'instant, j'ai pensé à Lorena, par exemple. Lorena, c'est des corps présents sur la scène qui se laissent traverser par une parole qui émane qui traverse, oui, c'est ces corps, sans que ça ne raconte rien d'autre que ça. que ce qui advient là dans ce présent-là. Alors là, mais une première pièce de Voltaire, ça ne fait pas du tout pareil. Donc là, il faut constater qu'il y a vraiment de grands écarts entre les écritures. C'est drôle parce qu'on a tendance à essayer de poser des modèles en global, et je crois qu'il faut peut-être poser des modèles très différents, surtout aujourd'hui, dont certains, en effet, seraient comme des espèces d'échos, de prolongements ou de renouvellement de modèles antiques, j'en suis convaincu, parce que j'ai une belle par exemple, là il y a des retours de ça, et puis à côté d'autres modèles qui sont peut-être très différents.
Le texte de Gauthier que je signalais renoue avec l'épopée Le Tigre Bleu de Frappe, mais de Frappe. En même temps, il va mourir, c'est la deuxième ligne, et tout le texte, c'est cette agonie, c'est ce combat de l'homme avec sa vie, avec sa langue, avec son. C'est ce procès-là, en quelque sorte. L'action comme procès, en fait. Et c'est pour ça que le récit peut être aussi du côté de l'action.
Je crois que dans les formes, depuis que tout est permis, il est même permis de renouer ou de faire entendre des échos de formes très très anciennes. Plus personne n'est obligé d'être moderne. Non, mais c'est pas le moindre paradoxe de ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'on est un narrateur que l'on pourrait tout à fait tranquille et dire j'ai envie d'écrire Le Tigre Bleu de Frate, voilà. Sorte d'épopée dans une langue flamboyante, et on peut la présenter à la Mousson sans dire que c'est une vieillerie. C'est plus
probable. Ça, c'est sur le plan de l'action, on est dans un état un peu statique, c'est-à-dire qu'on n'est pas tourné vers le progrès.
Non, mais Joseph l'a pointé un peu vite, donc on peut peut-être revenir là-dessus. Il disait que c'était aussi peut-être un reflet de l'écho de notre société. C'est-à-dire qu'on est comme ça, dans une incapacité extrême au théâtre, à agir ou à raconter des choses qui sont de l'ordre de l'action, comme si on était un peu toujours. On s'était pris les pieds dans le tapis de Chrétien et qu'on ne s'était pas relevé. Enfin, j'exagère un peu, mais parce que je vais vite. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si on savait plus très bien dans quel sens aussi agir. Et une certaine irritation ou des grandes discussions, en tout cas dans nos ateliers qu'il y a autour du texte de Corman Kern, viennent du fait que tout à coup c'est une pièce qui dit voilà un homme qui a agi et qui a agi politiquement. Alors tout le monde dit putain, est-ce que c'est encore possible? Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Il écrit ça. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Et Jean-Marie Piem qui écrit des pièces. Pour les vies politiques, ne me contredira pas. C'est en ce moment, c'est comme la chose qui est plus difficile de faire.
Oui, parce que effectivement, ça ramène à la fois, en fait, c'est un peu ce que vous disiez, il y a un moment donné dans le fait de polariser sur l'énonciation, on a cherché l'énoncé, enfin, on peut chercher tout à coup l'énoncé. Et aujourd'hui, il y a des événements qui ramènent, mais parce que finalement, peut-être le tort de la discussion ici qu'on a, c'est de ne pas nouer les formes sur des situations historiques. Par exemple, si on prend un Pico Müller, on voit très bien comment il a parcouru toute une échelle de modes de représentation et de modes de narration, mais elles sont très liées quand même à des événements de sa vie, à des événements de la RDA, et il y a des moments où il nous fait des pièces avec une action simple, enfin une action porteuse, dans Ciment quand même, on parle d'un moment, on arrive à un moment, et ça se déroule normalement, alors que dans Paysage sous surveillance, on est passé dans tout à fait autre chose. Donc il y a aussi, probablement, il y aurait une discussion à avoir, elle est évidemment plus délicate et plus difficile, de mettre en relation les questions sur les formes avec les événements de société qui font que tout à coup des choses paraissent obsolètes très vite ou au contraire se réaniment et reviennent, comme tu dis, dans une espèce d'évidence parce qu'il s'est passé quelque chose dans le monde à un certain moment.
Peut-être, pour une situation, peut-être il y a des gens qui ont envie de prendre la parole dans la salle ou de réagir ou de poser des questions parce qu'on est un petit peu en train de. Enfin, les règles du jeu sont encore parfaitement définies, donc on travaille vraiment autour d'un mot. Est-ce qu'il y a des. Pendant cette respiration, qu'il y a des envies de parole? Excusez-moi, je ne coupe rien, je suis content de vos interventions, mais j'essaie de susciter l'autre.
Bah pour faire entendre un autre son de voix, je vais faire entendre la mienne.
Oui.
Non, mais c'est une question que je me pose et que je pose à Joseph, parce que je n'ai pas la réponse, j'imagine qu'il l'a peut-être. Si on suit à peu près, tu dis une crise et ils sont ouverts sur l'action, et tu prends Peter Lynn comme point fort de cette crise, où au fond l'action, le drame disparaît. Et la discussion qu'on entend peut faire penser que, au fond, ça n'a pas ouvert sur quelque chose qui avait, en somme, révolutionné le théâtre, puisque, d'après ce qu'on entend, et moi je le crois, on est venu à des formes contradictoires, complexes, où se mêlent, au fond, l'action et l'éthique, en toute liberté, dans des formes. Ce qui fait que c'était peut-être. C'était un dynamitage qui n'était peut-être pas très important dans l'histoire de l'écriture, ce qu'a fait Metternich. Non, mais au niveau de l'histoire des formes, puisque au fond, peut-être que la question n'est pas là. Je veux dire, la question fondamentale du théâtre, de l'écriture, de l'art, c'est peut-être pas ça. Parce que chaque fois qu'un auteur imagine. Fait une pièce, il invente une forme spécifique de combinaison en fonction du travail qu'il fait, où il va doser à sa sauce, chaque fois différemment, entre la tension, entre les pics et le dramatique, si on peut dire. Brecht l'a fait d'une certaine façon, et tous les auteurs d'aujourd'hui le font d'une certaine façon, avec des dosages infiniment variables, finalement.
Sauf, je crois qu'il y a quand même eu scandale, enfin, il y a des scandales réguliers qui viennent du public, qui dit qu'il ne se passe rien. C'est quand même la chose qui est encore, et toujours, encore la sortie du théâtre, et qui semble la plus scandaleuse. Alors ça peut être à la sortie de Beckett, ou à la sortie de Nathalie Sarraute, ou à la sortie de je ne sais quel autre auteur qui serait à la Mousson, mais ça reste, il ne se passe rien. Donc c'est comme si le spectateur vivait l'absence d'action, de grande action repérable, comme un manque définitif et scandaleux.
Enfin, oui, mais c'était une réflexion un peu sombre.
Mais j'en sais rien, mais je...
Non, mais la réflexion de celui qui veut...
Non, je ne suis pas paranoïaque à ce point-là.
Parce qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose.
Oui, mais non, mais moi aussi, parce qu'il m'a aussi ce que dit à Bruno Natalin, c'est les temps de digestion. C'est-à-dire quand Joseph dit dans Beckett, enfin dans Napoléon, il se passe rien, il se passait rien pour les spectateurs d'il y a 50 ans. Pour aujourd'hui, je trouve que le Godo est une chose où il y a un nombre considérable d'événements que ça n'arrête pas, et que en fait, les toutes dernières pièces de Beckett, par exemple, sont effectivement des choses où il se passe plus grand chose, mais que Godo est une sorte de musical.
J'ai plus le texte en tête exactement, mais dans le Trésor des âmes, il y a un texte célèbre de Metternich où il dit bon, c'est pas parce qu'on va trucider quelqu'un sur la scène avec une épée qu'on est en pleine action, que l'action c'est peut-être tout simplement d'être immobile dans la nuit et de croire que quelqu'un meurt dans la pièce à côté.
Il se passe plus de choses dans la tête d'un vieillard, une lampe, la main qui tue la.
Et c'est plutôt ce que je dirais, en quoi le texte. Enfin, je débatte peut-être un peu la problématique, mais j'ai l'impression que ce qui rend les textes contemporains, ceux que j'aime dans les textes contemporains, les textes d'action, c'est qu'en effet ils agissent sur la représentation, c'est-à-dire qu'ils modifient nos comportements, nos modes de travail, nos conceptions, nos outils. C'est en ce sens-là qu'ils agissent puissamment sur la représentation et transforment nos modes de représentation, notre production. Je pense que c'est une... Je déplace un peu. Mais je crois que c'est leur manière d'être dans l'action aujourd'hui.
Je voudrais dire d'autres choses par rapport à ces questions, c'est quand même déjà ce que tu dis aussi. D'abord, il y a eu une grande période dans l'histoire du théâtre, quand même, où il y avait adéquation entre... l'action représentée et la possibilité pour un sujet d'avoir un projet, une volonté de mener à bien ce projet contre des obstacles. Enfin, bon. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui caractérise très longtemps le théâtre. Et je pense que c'est pas par hasard que cette crise du drame que nous évoquons se produit fin 19e. c'est aussi le moment où le sujet découvre son propre clivage, découvre que sa conscience, sa volonté ne sont pas des choses simples, qu'il est manipulé de l'intérieur, qu'il y a un inconscient qui travaille. Enfin bon, je veux dire que tout ça me paraît extrêmement important. Et je pense, c'est une réponse partielle à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, que si aujourd'hui tout est possible dans l'écriture dramatique, moi je dirais que c'est jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ce n'est possible qu'avec la mémoire de tout ce qui a eu lieu et qu'il y a de grandes ruptures historiques qui ne s'annulent pas. Et notamment celle-là, en tout premier celle de découverte de l'inconscient, mais également dans toutes ses conséquences sur le sujet et sur sa possibilité de vouloir l'action et d'agir. Et ça, c'est ce que Maeterlinck a pointé de manière, avec un tel absolu. Bon. Mais autre chose avec Maeterlinck, et ça, c'est, je rejoindrai Éloi, enfin autre chose, mais qui est lié, c'est qu'en même temps que nous nous détournons, nous sommes détournés de l'action extérieure à mener, de la volonté, au moment où nous nous rendons compte que peut-être il n'y a pas que cela, qu'il y a tout un continent intérieur, justement, il y a ce retournement de l'action vers l'intériorité, et c'est ce que tu évoquais à travers la citation de Maeterlinck, c'est-à-dire une espèce de plongée à l'intérieur pour voir qu'en effet, il se passe beaucoup de choses, mais à l'intérieur. Et dans le XXe siècle, il y a un nombre considérable d'écritures qui sont dans le prolongement de ça, mais chez René Sarraute, par exemple, c'est un aboutissement, un cas extrême de ça, cette espèce de saisie des tropismes, c'est-à-dire des mouvements intérieurs de la parole et de la pensée. Je pense que ça, c'est ineffaçable. Et qu'ensuite, alors là, je pense que la remarque de Jean-Marie tout à l'heure est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'ensuite, il y a des situations historiques dans lesquelles, malgré tout, il faut bien que l'action ait lieu dans l'air. Et à ce moment-là, que les auteurs dramatiques se positionnent par rapport à ça.
On va peut-être comparer, je parle de ce moment-là, à la disparition de la figuration en peinture. Enfin, à un moment donné, la figuration disparaît, et puis revient tout de même la figure après un certain temps. Oui, ici, on a l'impression qu'il y a un moment donné où l'action s'abolit, et puis elle réapparaît sous d'autres formes. Cela dit aussi, il faudrait. Là aussi, les paramètres sont très variables. Qu'est-ce qui rassemble un tout petit peu Maeterlinck et Beckett, et c'est certainement pas la seule chose qui est en commun, ou la seule chose. Et ça n'est pas les divergences qu'il y a entre eux, mais tous les deux, par exemple, sont des phobies du théâtre, par exemple. Hein. Maeterlinck déteste profondément le théâtre, mais déteste profondément l'acteur. L'acteur, je parle de théâtre. Déteste profondément. Et au fond, ce sont des phobies de tout ce qui bouge. Hein. Maeterlinck a une sainte horreur que l'acteur ne vienne mettre ses grosses pattes dans l'univers qu'il essaye surgir, et Beckett rêve de fixer les tempi de la parole, pour que l'acteur surtout et le metteur en scène ne viennent pas mettre en l'air son rythme. Donc il y a quand même quelque chose, me semble-t-il, entre le refus de l'action et ce courant phobique de l'acteur. Enfin voilà, c'est ça que ça très vite, hein. C'est une hypothèse de travail, c'est pas une révélation, c'est pas une certitude, mais il faudrait tout de même interroger effectivement les voies par lesquelles les auteurs arrivent au théâtre. Alors il y en a qui arrivent au théâtre par la voie du plaisir de l'acteur, et il y en a qui arrivent au théâtre par la crainte de l'acteur. Or ça ne produit pas le même théâtre, et forcément pas la même réflexion dramaturgique.
Oui, je pensais que pour prolonger le débat, il faudrait peut-être quand même approfondir cette distinction entre des actions jouées et des actions réelles. Donc je veux bien que les Grecs n'aient pas fait quant à eux la distinction entre des actions fictives et des actions jouées, mais il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, peut-être le spectateur est attentif justement à cette distinction et qu'il attend de voir des choses qui se produisent vraiment. Et c'est vrai qu'au théâtre, il se produit toujours quelque chose, ne serait-ce que la présence corporelle de l'acteur sur la scène, mais dans le théâtre contemporain, il me semble qu'on peut aller plus loin. En tout cas, dans la danse contemporaine, par exemple, dans la danse contemporaine, certains chorégraphes maintenant mettent des danseurs qui urinent sur la scène. C'est une action réelle qui est... Le cinéma, évidemment, peut montrer beaucoup plus d'actions réelles, mais je crois qu'il y a quelque chose dans la modernité théâtrale qui se joue en ce moment. On attend de voir, effectivement, un événement. Ça rejoint aussi ce que disait Jean-Marie par rapport au cirque, ou des plasticiens qui sont coulés du sang, ou des choses comme ça. Enfin,
Joseph a évoqué la fascination actuelle pour la performance. Par exemple. Il raconte quelque chose. Moi, je dirais qu'il y a eu une période... Enfin, je vais donner la parole, mais il y a eu une période intermédiaire, me semble-t-il, où on a mis des actions parallèles, enfin, tu l'évoquais, à ce qu'ils jouaient. Il me semble qu'à la fin des années 70, par exemple, on a vu des gens qui faisaient du pain pendant 2 heures sur le plateau, en disant quelque chose qui ne concernait pas la fabrication du pain.
Non, mais oui, bien sûr, faire la cuisine, le marin avait fait ça.
Une période où il y avait une activité, pas direction, une activité réelle de la cuisine, et pendant que la cuisine se faisait et que l'odeur commençait à régner dans le théâtre, de manière assez agréable, quelque chose se disait qui n'avait rien à voir avec la cuisine en train de se faire. Enfin, il y avait une sorte de séparation, comme si le théâtre avait quand même envie d'exhiber une action réelle, même pas capitale, ou surtout pas capitale. Hein, c'est peut-être plus capital que faire la cuisine, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Il y a eu cette période-là où il y avait comme une volonté de dissocier ce qui se disait et ce qui devait se jouer. Fais quelque chose, c'était un peu la règle, comme ça.
Je c'est là-dessus, justement, mais c'est que tu me sens voir à travers ça comme une espèce de tentative quasi désespérée
de dépasser le cadre,
d'atteindre le réel. Quoi. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans de la modernité. Et je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure parce que ça ne se raccordait pas vraiment à mon propos, mais que là je peux évoquer, qui est la présence de la vidéo sur scène. Comme une espèce de, enfin, un des usages de la vidéo serait cette fenêtre ouverte sur le réel. Illusoire, hein, bien sûr, hein, mais je crois que tout ça rentre dans cette problématique.
Il se passe quelque chose sur scène maintenant, la performance, ça. C'est aussi, enfin, j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'on a envie qu'il se passe quelque chose. Nous, le spectateur a aussi envie qu'il se passe quelque chose en lui. Et que peut-être juste maintenant, on s'est rendu compte que l'action, c'est pas le seul moyen qu'il se passe quelque chose chez le spectateur. De la même manière qu'en effet, dans les arts plastiques, à un moment donné, on s'est dit tout est art parce que un pot retourné peut provoquer quelque chose en moi, dans ma réception, dans ma sensibilité. Et de la même manière, ça a commencé en effet, mais dernier, tout ça, il peut. Juste dans l'attente, dans le silence, dans l'immobilité, il peut se passer encore plus de choses. C'est-à-dire qu'en fait, le déplacement de l'action, c'est juste qu'il n'est plus sur scène, il est en moi, quoi. Enfin, en moi, spectateur. Et en fait, j'ai l'impression que c'est surtout ça qui se passe, et c'est pour ça que si tout est libre et que toutes les formes s'ouvrent, c'est qu'on cherche une forme qui atteigne plus loin, autrement, avec le maximum de liberté, le spectateur, quoi, que l'action se passe en lui. Enfin, je sais
alors,
pas.
Si, mais là, finalement, je dirais qu'il y a quelque chose qui. Alors là, pour le coup, est inhérent au théâtre depuis l'origine, après.
Non, mais parce que justement, quand je le disais tout à l'heure, les gens disent il se passe rien, c'est scandaleux. Je pense pas que ça ait rien de sourd de dire ça. Je pense que quand il se passe rien chez le spectateur, c'est juste que, c'est raté, quoi. Bon, c'est pas grave, ça veut pas dire que le texte est raté, ça veut pas dire. Mais juste que ce qu'on recherche à travers la variation perpétuelle de la forme, etc., c'est que. Finalement, il se passe quelque chose chez le spectateur. Enfin, au final, je pense que n'importe quel auteur, c'est ça qu'il veut, c'est pas...
Sauf que le spectateur ne dit pas « il ne se passe rien dans moi », c'est embêtant, mais il se dit « il ne se passe rien en face ». Il y a quand même une certaine habitude, je ne vais pas commencer à incriminer la télévision, mais est-ce que dans les 22 secondes, l'accrochage se passe et qu'il se passe quelque chose? Pas forcément en moi, mais quelque chose en face. Peut-être qu'il y a une habitude qu'il ne se produise plus jamais rien en moi. Je suis juste là devant mon écran, et qu'en face, je m'attends à ce que ça bouge un peu. Bon, j'entends bien ce que tu dis, mais tu vois, la question n'est pas tellement c'est scandaleux, il ne se passe rien en moi, c'est scandaleux, il ne faut rien pour qu'il se passe quelque chose de formidable en moi. Mais moi, je fais rien en tout cas. C'est aussi ça la question de la réception. Est-ce que je vais bouger un peu pour qu'il arrive quelque chose d'important entre la scène et moi? Pour moi, c'est une question fondamentale de la réception aujourd'hui. Est-ce que le spectateur accepte d'agir un peu pour que advienne du mouvement
Non, enfin, c'est quand même discutable. Parce que... non, c'est quand même discutable parce que s'il faut avoir une licence d'études théâtrales pour avoir du plaisir, je crois que le corps est quand même, pour parler comme un sociologue, mais ça, l'instrument de mesure qui permet d'apprécier. Je ne sais pas, je ne vois pas comment en dehors de mon corps je pourrais apprécier un théâtre si j'en ai pas de plaisir.
Je ne pense pas qu'il faut avoir une licence d'études théâtrales. Mmh. Je pense que c'est un débat ancien et pipé d'emblée. Mmh. Je pense que ça n'a rien à voir, qu'il y a des formes de plaisir extrêmement diverses. Et que malheureusement, elles ne sont pas toujours partageables sans éducation.
Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que cette question que tu poses, qui est peut-être importante, je pense qu'elle s'est toujours posée, plus ou moins consciemment, au théâtre. Et que, de toute façon, voilà, je pense que, ça je ne l'ai pas dit effectivement, mais si cette question de l'action m'intéresse, elle ne m'intéresse que pour ça. C'est-à-dire, parce que l'action, qu'elle soit représentée, ou tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on a décliné depuis tout à l'heure, mais que depuis les Grecs, l'action montrée, l'action qui se joue sur la scène, ne vaut que si c'est un levier qui fait bouger quelque chose en moi. Et de toute façon, c'était Aristote aussi, hein, c'était la catharsis, c'était quelque chose qui est produit, une émotion produite. Émotion mise en mouvement de la pensée, je crois que ça c'est quelque chose d'extrêmement... De fondamental. Alors après, en effet, il faut voir les formes que ça prend aujourd'hui, et qui sont peut-être des formes, toutes sortes de raisons, plus variées, ou qui n'arrêtent pas d'exiger le renouvellement.
Je crois que c'est peut-être une bonne... je veux pas être, qu'on soit trop bref, mais je veux pas non plus que vous soyez complètement trompé par cette discussion un peu dense. Dans les cas, on semble, pour un mot, c'est pas si mal, mais c'est pas suffisant, naturellement. Je merci en tout cas. On verra bien comment ces tentatives vous intéressent. Demain, c'est sur traduction. Donc, traduction. Merci beaucoup.